Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h36, Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là. Tout à l'heure à 23h, analyse du plateau des quarts de finale de Ligue des Champions avec les drôles de dames. Mais d'abord un petit point score, ça n'a pas bougé entre le Real et Liverpool, Jeannot.
Non, il reste encore 13 minutes à jouer, toujours 0-0, 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et toujours ce manque de tranchant de la part des Reds de Liverpool. Et quelle belle gestion du résultat tout en étant dangereux, en ayant des occasions hein, de la part du Real Madrid de Carlo Ancelotti.
Naples-Francfort, Aurélien.
Et la démonstration sifflotant des Napolitains. Toujours 3-0 à 12 minutes de la fin du match. Doublé de Victor Osimhen. Penalty du Polonais Piotr Zieliński. 5-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Avant de parler de l'UEFA et de ses décisions du jour, Daniel, on termine le débat autour de la médiatisation des Bleus.
Oui, enfin, c'était pas tant la médiatisation des Bleus. C'est l'idée que Lionel pense que c'est en étant. Ah, bah, but de Benzema.
Mais non?
Ouais, si, il a marqué.
Il est pas hors jeu.
Jeannot.
Ouais, le but de Karim Benzema qui s'est fait mal au passage, 78e minute, avec ce ballon transmis par Vinicius. Ils ont fini par se trouver, ces deux-là. Ça n'a pas été simple. Et là, c'est Konaté qui est au marquage et qui attrape la jambe de Benzema. Mais il avait déjà frappé au but et donc permet à cette équipe du Real Madrid, finalement, d'être récompensé, ce que je disais à l'instant, dans sa gestion du match, tout en ayant des occasions de but.
Ils ont joué.
342e but sous le maillot du Real Madrid pour Benzema. C'est un ballon de Camavinga hein, au départ de l'action. Benzema est dans l'axe, il ne peut pas se débarrasser de Van Dijk et c'est Vinicius, qui c'est pas le Lillois, c'est le joueur du Real Madrid qui est venu glisser sur le tacle derrière et pour mettre ce ballon du bout du pied à Karim Benzema qui d'ailleurs au premier contact avec c'est pas Konaté avec Van Dijk.
Ouais, c'est marrant, au début on n'a pas l'impression qu'il se fait mal et puis quoi après il a mal.
Ouais, il s'arrête dans sa course pour
ça
aller
bien grave.
Célébrer ce but. Les espoirs de Liverpool étaient déjà bien entamés. Là, c'est terminé. Au moins, on a évité le 0-0.
Camavinga était très bon, Jeannot, non?
Ah, il a été plutôt intéressant. Ouais. Il a perdu très peu de ballons. Fred Hermel avait des craintes au début du match en disant oui par rapport au match
il n'y aura pas 0-0.
Pardon?
Non, par rapport à Fred, là, vu qu'il avait dit que 0-0 il arrêtait.
Non, mais il avait des craintes surtout par rapport au fait qu'il n'avait pas été bon au match aller et qu'il aurait préféré voir Tchouaméni, mais Tchouaméni est un petit peu plus en difficulté. Voilà, il se fait soigner au mollet Benzema, mais il a été plutôt bon et plutôt régulier dans la récupération du ballon, dans la relance et dans ce genre de passe. Ça a été la troisième ou quatrième.
Il est décisif sur le but encore.
Il a délivré, ouais, tout à fait.
Bon alors Daniel.
Oui, j'ai essayé de faire comprendre et aussi à ceux qui nous écoutent en quoi cette relation trop proche avec le monde d'en face pouvait être finalement préjudiciable tout simplement à l'information. Déjà, tu as par exemple l'exemple qu'il y a eu au PSG et qu'il y a encore d'ailleurs avec tout la direction de la communication qui cherche à contrôler toute la com par le biais de ses comptes sur les réseaux sociaux où de temps en temps ils leur donnent comme on donne du pain au canard deux trois petites informations pour que les mecs disent du bien des joueurs et ensuite ils vont faire croire qu'ils ont des informations. Toi tous les comptes je sais pas si tu les vois sur Twitter, tous ces comptes de supporters qui ont pas mal de followers maintenant et qui
vu,
au fond
je t'ai vu l'autre fois
et qui au fond disent du bien
de tes tweets passés en
et finissent même parfois par nouer des relations avec les joueurs mais qui finalement ne vont être là que pour en dire du bien, que pour être des supporters au final. Et ça tu l'as également
du bien ou du mal.
Non, les
s'ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils peuvent aussi détruire un joueur.
Ça c'est pour le cas de l'armée numérique, effectivement, ça a été vrai, tu fais bien de le dire. Mais tu as eu tous les exemples de gars qui deviennent potes avec le gars qui suit le club pendant des années et qui lui met en permanence la bonne note. Tu as par exemple le cas aujourd'hui, il y a un mec qui avait des infos sur l'OM au début des années 2010. Il y a un mec qui avait des infos. Aujourd'hui, il est attaché de presse de l'équipe de France. Parce que Deschamps était à l'époque entraîneur à l'OM.
Je connais très bien.
Ouais, mais c'est la plaie de notre métier, ça. Ça, c'est parce que tu t'es obligé de te dire que pendant des années, quand il suivait l'OM et que Deschamps en était l'entraîneur, les infos que tu lisais dans le journal, elles étaient télécommandées, elles étaient téléguidées. Donc, c'est ça que tu découvres, en fait, quand les mecs ensuite vont dans les clubs pour bosser. Bah, c'est absolument pas normal. Et l'anecdote, je vais t'en raconter très, très simplement. Récemment, tout le monde sait que je disais pas mal de bien de Valentin Rongier. Mais je le dis parce que je le pense et parce que c'est sincère. Et il est venu dans l'after il n'y a pas très longtemps. Et avant qu'il vienne, on a échangé 2-3 messages. Et dans un des messages, il me dit « Ah, et merci, c'est gentil tout ce que tu dis, machin. » Qu'est-ce que je lui ai répondu? J'ai dit, mais Valentin me dit surtout pas merci. Il y a pas à me dire merci. Si je dis du bien de toi, c'est parce que je le pense sincèrement. Parce que je trouve que t'es un bon joueur. Et quand tu feras un mauvais match ou quand tu seras moins bon ou quoi, ok, je le dirai de la même façon. Je trouve que c'est un type super. Alors qu'on se connaît pas. On n'a pas mangé ensemble. Je l'ai même jamais vu. On n'est pas amis. On se connaît pas. Je trouve que ça a l'air d'être un type super. Je trouve que c'est un bon joueur sur le terrain. Il s'est imposé à l'OM. Il en est devenu le capitaine. J'en dis du bien. Il vient dans l'émission. Mais il fait un mauvais match. Je dirais qu'il a un mauvais match. Alors que si je lui envoie des messages, si machin, ah, vas-y, file-moi des infos, ou, non, ben, enfin, tu vois, c'est.
Alors,
c'est
juste pour te répondre.
On arrêtera là-dessus, on a fait le tour.
Juste on peut pas faire ça, Lionel, tu comprends?
Juste, on peut pas, mais un contre-exemple, qui va te très bien te parler, l'affaire Benzema avec Didier Deschamps pendant la Coupe du Monde. Si la com, peut-être qu'il y a clash entre les deux. Il y a sûrement clash, on sait pas. Mais
Si, je sais, ce sera dans mon livre qui sort au mois d'avril.
Voilà. Donc, si c'est pas maîtrisé, est-ce que l'équipe de France, à ce moment-là de la compétition, juste avant la compétition, a besoin de, et le monde entier a besoin d'entendre qu'il y a un, et qu'il peut y avoir un clash entre.
Non, mais Lionel, moi, j'ai pas dit ça, attention.
Mais voilà, mais ça, c'est maîtrisé. Mais là,
d'accord.
Voilà, une com' maîtrisée.
Non, mais eux, ils font leur métier, nous, on fait le nôtre. J'ai aucun problème avec ça.
C'est ce que je te disais par rapport aux joueurs.
Alors, je t'ai pas compris. Pardon.
C'est ce que je te disais
parce que je ne veux pas.
T'as besoin de maîtrise et que les joueurs aussi.
Moi, ce que je ne veux pas, c'est que cette maîtrise, elle aille jusqu'à quoi? Que dans les conférences de presse de l'équipe de France.
Parce qu'on envoie le mec qui a la meilleure langue de bois.
Voilà.
C'est ça.
Non, Lionel.
Oui, mais voilà. Là, il y a pas de langue de bois, il n'y en a pas eu du tout.
Moi, ce que je ne veux pas, c'est que la communication maîtrisée des Bleus, de Deschamps et de son laquais, ça devienne un contrôle.
Là, il y a eu contrôle, hein.
Le contrôle de la presse. Et c'est-à-dire que dans les conférences de presse, on ne passe le micro, tu sais, comme fait Trump dans ses conférences de presse, il ne passe le micro qu'aux journalistes qui sont amis. Et le mec.
Non.
Mais
je suis pas d'accord avec ça, ouais.
Mais c'est exactement ce qui se passe.
Juste en équipe de France, hein.
En équipe de France, va demander, et Jeannot, malheureusement, peut en témoigner, et à mon avis, il doit lui arriver très souvent de pas être, de
pas trouver que je sois. Ce n'est pas que ça. On a vu Didier agacé.
Laisse-moi terminer, je te raconte. Le mec d'RMC qui va dans la conférence de l'équipe de France, ben souvent, il est très emmerdé à cause de ce qu'on dit, nous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le micro il arrive pas jusqu'au journaliste d'RMC parce que Didier Deschamps et son laquais disent non, les mecs d'RMC ils posent que des mauvaises questions. D'ailleurs, rappelle-toi, ça avait fait une séquence marrante dont on a fait un jingle. Ah oui, c'est encore les mecs d'RMC, c'est les gars d'RMC, c'est toujours les gars d'RMC.
Mais parce que Deschamps, s'il a dit ça, c'est qu'il a eu le micro.
Parce que Deschamps, tout ce qu'il veut lui, c'est faire de tous les journalistes des larbins. Bon, est-ce que c'est normal? Donc il est normal que nous, face à ça, on essaye de dire ce qu'on sait. Tu vois, quand ça arrive en politique, ça fait des scandales. Pourquoi dans le foot on accepterait ça?
Je confirme, c'est arrivé, ça s'est arrangé au moment de la Coupe du Monde et ça va beaucoup mieux maintenant.
Après ce que j'ai dit,
Écoute, on verra. Je te dirai ça.
Et pourquoi ça va mieux, Jeannot? T'as changé ton attitude?
Parce que Jeannot il est sur le terrain et que sur le terrain. En revanche, quand t'es sur le terrain, tu dois être habile, tu dois être une sorte de diplomate.
Et ça, je confirme, parce que parfois, c'est vrai que
tous nos reporters, ils doivent être
plus compliqué.
Nous, notre liberté, on la doit aussi à nos reporters sur le terrain.
Bon, les gars, je voulais juste, sur l'équipe de France, pour conclure, vous faire réagir quand même à quelque chose. Jérôme Roten, tout à l'heure dans son émission, a poussé un gros coup de gueule parce qu'il estime que Giroud n'a plus rien à faire en équipe de France, trop vieux, que la relève est là.
Qui dit qu'il n'a pas. C'était avant déjà le mondial, il fallait pas qu'il revienne.
La tendance, c'est quand même qu'il soit appelé. Puis Giroud, on peut pas dire qu'il soit mauvais, excusez-moi.
Jérôme, il continue à marquer avec Milan.
Vous êtes d'accord avec Jérôme Roten?
Pas du tout. Mais j'avais déjà eu un clash avec Jérôme dans son émission par rapport à ça. J'avais dit Jérôme, parce que lui disait que c'était fini, que Giroud il avait plus rien à faire en équipe de France. J'ai dit attends, t'es pas à l'abri que Benzema se blesse pas et que Giroud soit très bon avec le Milan AC. Je te le donne 1000.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé.
Tu lui donnes en 1000 ou tu donnes 1000?
Je le donne 1000. Non, je regarde Gilbert, 1000. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas, déjà, il n'a pas dit qu'il voulait arrêter l'équipe de France.
Oui, il a réfléchi tout ça, puis après, au final, il a dit, je continue.
Donc, voilà. Je continue à partir du moment où le sélectionneur veut bien m'appeler. Il fait ses performances. S'il est performant, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas appelé? Je ne comprends pas.
Moi, je vais essayer. Je vais essayer de faire l'avocat de Jérôme. Moi, Giroud, jusqu'à la Coupe du Monde, à 100%, fallait qu'il y soit. Aucun problème. En plus, il venait de faire une belle saison. J'ai toujours défendu Giroud. Ses performances parlent pour lui. En équipe de France, il est nickel. là où je vais me faire l'avocat de Jérôme, c'est sur un élément qui est très simple, c'est l'âge de Giroud. Ce qui ne remet pas en cause ses performances actuelles, il continue à marquer, il est bon. C'est juste que je me dis, la prochaine échéance importante, c'est l'Euro. Donc, dans un an et quelques mois, on est d'accord ?
De juin 2024.
Voilà. Si tu dois
préparer... Donc tu mets qui ?
J'arrive. Si tu dois préparer ton équipe pour cette échéance-là, avec les qualifs qui arrivent, j'aimerais qu'au moment où on va démarrer la compétition en 2024, le gars qui sera à côté d'Mbappé, il ait joué beaucoup avec lui, il soit installé, il soit en confiance avec l'idée que il est l'attaquant des Bleus. Si Giroud est plus jeune, je me dis aucun problème. Il sera encore bon, même quand il jouait pas, qu'il était pas titulaire, il a un tel mental que ce gars-là, tu sais que tu peux compter sur lui. En fait, c'est pas que j'écarte Giroud, que je continue à beaucoup aimer. C'est juste que je me dis, comme une sorte de pari envers moi-même, je me dis, il a 36 ans, est-ce que dans un an et demi, il ne sera pas rattrapé par l'âge, auquel cas, il peut plus être performant et j'ai perdu du temps pour installer mon nouveau neuf.
Alors, moi, je vais te répondre.
Tu comprends? Ça se défend, cette idée, elle se défend.
Elle se défend. Elle se défend. Maintenant, voilà. Maintenant, le problème, tu perds Lloris, tu perds Varane, tu perds tous tes leaders, les uns après les autres. Giroud fait partie des cadres. Lorsque tu veux perpétuer quelque chose, la culture de la gagne, et cette équipe, Dieu sait quand même si elle a gagné, elle a failli remporter 2 étoiles en très peu de temps. Donc, si tu veux perpétuer cette culture de la gagne, et que tu veux mettre un jeune, un nouveau en devenir, t'es obligé aussi de l'incorporer avec des mecs qui ont cette culture de la gagne. Il y en a un qui a essayé de passer outre ça, c'est Domenech. Raymond, il a dit, toutes les sorcières de 98, vous dégagez. Moi, je ramène que des jeunes. Ils sont plantés complètement. Il a révisé sa copie, il a rappelé Tutu, il a rappelé tout ça, il a rappelé des cadres pour remettre des jeunes.
Là, tu garderais quand même pas mal de mecs qui viennent de vivre une très belle aventure.
Qui ne sont pas des cadres. Giroud, c'est un cadre. Là, en cadre, tu vas garder Griezmann, tu vas garder Kylian.
Tu dis que c'est pas assez.
C'est pas assez. Donc, au moins, rappeler Giroud, ça veut pas dire que tu vas le faire jouer titulaire, mais t'as besoin de cadre. Gamin,
allez, oui,
temps, il va jouer titulaire.
Donc, la solution serait entre toi et Jérôme, c'est-à-dire de, tu le gardes, parce qu'effectivement,
pour
il encadre.
Le passage
et
de témoin.
Il montre l'exemple, notamment.
Exactement.
Et à la limite, t'es pas obligé de le faire jouer tout le temps, et t'installes un mec que tu fais rentrer de plus en plus souvent, à qui tu donnes toujours plus de temps de jeu,
mais
un Colomoyi.
Ta famille, ça va se passer comme ça.
Okay, je suis d'accord.
Ce que t'apprends à tes enfants, tes enfants vont l'apprendre à leurs enfants.
Non, mais je pense qu'il y a une solution à trouver entre les deux et de ne pas se priver de tous les cadres d'un coup, c'est vrai.
Allez, dans l'UEFA et la fin des matchs, les scores n'ont pas bougé, juste le score et le temps qui reste entre le Real et Liverpool. Jeannot,
on est dans les dernières secondes avant de connaître le temps additionnel. 1-0 pour le Real, le but de Benzema à la 78e minute, 6-2 sur l'ensemble des deux matchs.
T'as pas dit qui tu voulais capitaine des Bleus, toi?
Moi, je pense que Griezmann sera un très bon capitaine.
Très bien.
Aurélien, Naples-Francfort.
90 secondes encore dans le temps additionnel. Naples va vivre son premier quart de finale 3-0 dans ce match au stade Maradona.
À tout de suite dans l'after.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.